Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Alexia Vidot.
Bonjour.
Journaliste au magazine La Vie, auteur de cet ouvrage paru il y a quelques mois aux éditions Arthège, Comme des cœurs brûlants. Donc j'invite vraiment l'auditeur à découvrir cet ouvrage où vous présentez différents portraits, des portraits parfois inconnus d'hommes et de femmes du XXe siècle. Je voudrais m'arrêter avec vous quelques minutes pour faire brûler les cœurs de nos auditeurs sur ce couple, encore peut-être pour un grand public, croyant ou non croyant au fond, mais ce couple rwandais de prénom Davroz et Cyprien, couple particulier, et puis c'est la période, c'est l'histoire aussi que nous connaissons du génocide au Rwanda. Pourquoi très précisément vous avez fait le choix de mettre votre écriture, votre plume au service de ce couple rwandais?
Mais ils ont une histoire extraordinaire, mais de feu, de joie, qui est assez peu connue, et c'est tellement dommage. Donc je voulais vraiment les faire mieux connaître et puis aussi montrer que voilà, le couple, c'est aussi le lieu d'une grande sainteté possible. Et leur histoire de conversion est touchante. En fait, Cyprien est un poète, un compositeur, un chorégraphe assez connu au Rwanda, assez fameux. Et toutes les premières années de leur mariage, les 17 premières années de leur mariage, est assez terrible parce que Cyprien est assez volage. Alors que Davroz, elle est très chrétienne, Cyprien, lui, a tout rejeté. Et même assez violent, il casse les croix, enfin, il est vraiment révolté contre Dieu. Et Davroz, elle, malgré les humiliations, malgré les tromperies, etc., elle s'accroche au sacrement du mariage. Voilà, elle s'est mariée avec Cyprien et elle puise la force dans le sacrement, dans son amour pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et elle prie pour son mari. C'est ça qui est formidable, c'est cette persévérance et cette foi en la force du sacrement, en la force de la puissance de la grâce. Et Cyprien, un jour, tombe malade. Et là, tous les dons, tout ce qui avait fait sa gloire, donc son talent de musicien, de danseur, il peut plus rien faire. En fait, il est alité, il peut plus parler, il peut plus danser, il peut plus rien faire. Et là, tout s'écroule autour de lui, sauf Davroz qui est là à son chevet. Et il a cette parole que je trouve formidable. Il dit « Je lui ai fait du mal et elle me fait du bien. Son Dieu sera mon Dieu. » Ils partent en Belgique pour se soigner. Et dans l'avion, Cyprien sent que son corps retrouve une vigueur. Et arrivé en Belgique, en fait, les médecins voient qu'il est guéri. Il retourne au Rwanda et alors qu'il écrit souvent des chants, là, il y a un chant qui monte dans son cœur. Et c'est la première fois qu'il va parler de Dieu. Et ce chant, finalement, va le révéler comme chrétien. Je le cite parce que c'est très beau et prophétique. « Ce ciel blanc, blanc comme neige, où m'attend l'être suprême. Si jamais je viens à être appelé, de grâce, ne vous affligez pas. Je répondrai à l'appel tout joyeux et j'entrerai au ciel en dansant. » Il faut savoir que quelques années plus tard, Davroz, Cyprien et 6 de leurs 10 enfants vont être tués dès les premières lueurs du génocide rwandais.
Donc en écrivant sur, je dirais, cette belle histoire de couple, une histoire qui pendant 17 ans va être une histoire de couple mise à l'épreuve, avec Davroz et cet homme volage qui n'a pas encore ouvert ce cœur à la rencontre de Jésus. Cette histoire révèle aussi la beauté du mariage, la beauté aussi de la sainteté dans le mariage, la beauté aussi et la grandeur aussi de la paternité, de la maternité et au fond de la famille.
Oui.
Et cette histoire de Davroz et Cyprien, de ce couple rwandais, nous conduit jusqu'au don total, jusqu'au martyr. Alors, le martyr, on pourrait peut-être, avec l'histoire de notre monde actuel, si nous sommes chrétiens, peut-être lecteurs de cet ouvrage « Des cœurs brûlants », auditeurs de ces moments de radio, on peut se poser, on peut s'interroger et se dire « Notre monde tourne mal, où j'en suis ? Je suis baptisé, je suis chrétien. Est-ce que je peux me poser la question du martyr ? Est-ce que je suis prêt ?» demain, dans 2 ans, 3 ans, à vivre le martyr ? Vous avez réfléchi à cette question du martyr ?
Oui, et en fait, il faut revenir à... Qu'est-ce que ça veut dire, martyr ? C'est témoin. Et donc, en fait, tout chrétien est appelé à être témoin, donc tout chrétien est appelé au martyr. Il y a Martin Stephens, un philosophe que j'aime beaucoup, qui a écrit « Repère pour le martyr qui vient ». J'ai oublié le début de son titre, mais c'est « Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient ». Il dit finalement « La vocation de tout chrétien, c'est la vocation au martyr ». Alors, il y a le martyr sanglant, comme celui qu'a connu Cyprien et Daphros Rougamba. Et d'ailleurs, leur procès de béatification a été ouvert, et c'est pour cause de, enfin, le martyr en haine de la foi, et non pas l'héroïcité des vertus. Et donc il y a ce martyr sanglant qu'on ne va peut-être pas tous être appelés à verser notre sang. Je doute quand même qu'en France, on en arrive là. En revanche, il y a le martyr blanc, comme on dit, le martyr de la conscience, en fait. Et ça, je pense qu'on le vit chaque jour, aujourd'hui, dans un siècle quand même déchristianisé, sécularisé, dans un siècle qui a exclu le divin. Il y a ce martyr de la conscience qui est quotidien. Et puis aussi le martyr de la cohérence. Un des papes, je ne sais plus lequel, a parlé de ce martyr de la cohérence. Et je pense que tous, nous en faisons chaque jour l'expérience. C'est saint Paul qui le dit aux Romains, c'est le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Qui me délivrera de ce corps de voué à la mort ? C'est le Christ.
Alors dans votre métier de journaliste, Alexia Vidot, ce martyr de la cohérence au fond est certainement aussi, même dans vos écrits, votre plume, important.
Effectivement, la cohérence,
être,
pour moi,
rester ça me... la plus cohérente aussi dans votre statut de journaliste et puis votre statut aussi de baptisée, de chrétienne, catholique.
Mais j'ai la chance de travailler dans un média chrétien, donc je ne me retrouve pas devant des situations où je peux avoir un cas de conscience, par exemple. Mais je le vis plus, moi, dans ma vie personnelle, en fait, dans ma vie quotidienne, où voilà, j'ai cette... Enfin, je voudrais tellement être un témoin fidèle de Jésus et en fait, j'arrive tellement pas à être à la hauteur de l'appel de l'évangile que chaque jour, je me dis, même là, la promotion de mon bouquin, je passe plein d'heures à parler de Dieu, à dire des choses magnifiques, mais est-ce que je le vis vraiment ? Est-ce que ce que j'écris, je le vis vraiment ?
Je ne vous demande pas une confession, Alexia Vidal, je ne vous demande pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre rapport.
Mais c'est la vraie question qu'on doit tous se poser,
question,
en fait.
Ouais.
Parce que c'est bien de parler de Dieu, de faire plein de conférences, etc., mais... Est-ce que je suis en marche sur le chemin de la sainteté ?
Au fond, est-ce que vous vivez de Dieu et avec lui ?
Ouais.
C'est vrai qu'on peut aussi parler beaucoup, témoigner
parfois
beaucoup.
Parle trop.
On parle trop, on ne sait plus écouter.
Oui, on ne sait plus écouter et on ne sait plus faire silence. Moi, voilà, la force du silence, l'importance du silence. Aujourd'hui, on a peur du silence, on se drogue au bruit. Voilà, le bruit est une drogue. Alors ça nous tranquillise, ça nous rassure, mais en fait ça nous tue à petit feu parce qu'on reste à l'extérieur de soi-même, on reste au seuil de sa vie, on ne descend pas dans notre cœur profond, là où Dieu nous attend. En l'homme intérieur habite la vérité, comme dit Augustin. Donc sans ce silence, sans cette chasteté du langage, d'une certaine manière, Saint Jacques dit de mettre un frein à sa langue. Alors combien de fois on loupe l'occasion de mettre un frein à notre langue ? Alors je dis ça tout en parlant, mais... Mais voilà, il faut faire oser le silence. Mais un vrai silence, il y a des faux silences, des très mauvais silences. Et je pense que l'Église, aujourd'hui, paye aussi ces silences coupables. Et ces silences qui ne sont pas des silences, c'est des silences vraiment de mort. Il y a un vrai silence et c'est le silence de Dieu, ce silence de l'écoute de la voix de Dieu qui parle, comme au prophète Élie, la voix d'un fin silence.
Alors, très intéressant là d'aborder la question au fond du silence. Est-ce que je fais silence dans ma vie ? Est-ce que je sais aussi prendre les moyens pour faire taire tous ces bruits, toutes ces agitations ? Car au fond, en vous écoutant sur cette question autour du silence, est-ce que je fais le silence ? Est-ce que je fais le choix d'entendre Dieu ? On ne peut entendre Dieu, l'écouter, peut-être lui obéir, vivre de cette relation que dans une attitude profondément silencieuse.
Ah bah je pense que c'est
un chemin de conversion. Au fond, vous relevez quand même un des points centraux, peut-être, pour aujourd'hui dans notre société.
Ah oui, je crois que c'est fondamental, le silence, quoi. On peut pas, enfin, si on reste constamment dans le brouhaha du monde, on s'y perd.
Et il y a silence et silence. Alors, si vous permettez, vous ne pouvez pas faire silence sur les ondes d'une radio et puis dans cette émission des Clés pour vivre, mais je vous propose peut-être de creuser un petit peu cette question du silence. Où j'en suis aujourd'hui, moi, lecteur ou auditeur, dans ma vie quotidienne de tous les jours. Alexia Vidot, rendez-vous demain.
À demain.
Merci.